Chapitre 2. La nation d'Angleterre. Je vous disais tout à l'heure à Archambault que le parti navarrais se montrait bien actif. Dès le lendemain du banquet de Rouen, des messagers étaient partis en toutes directions. D'abord vers la tante et la sœur, mesdames Jeanne et Blanche. Le château des reines veuves se mit à bruisser comme une fabrique de tisserands. Et puis vers le beau-frère, Phébus. Il faudra que je vous parle de lui. C'est un prince bien particulier, mais qui n'est point négligeable. Et comme notre Périgord est après tout moins distant de son Béarn que de Paris, il ne serait pas mauvais qu'un jour... Nous en recoserons. Et puis Philippe d'Evreux, qui avait pris les choses en main et se substituait bien à son frère, expédia en Navarre l'ordre d'y lever des troupes et de les acheminer par la mer le plus tôt qu'on pourrait, cependant que Godefroy d'Harcourt organisait les gens de leur parti en Normandie. Et surtout, Philippe dépêcha en Angleterre les sires de Morbec et de Brévent, qui avaient participé aux négociations de Naguère, pour requérir de l'aide. Le roi Édouard leur fit un accueil frais. « J'aime loyauté dans les accords, et que la conduite réponde à ce que la bouche a dit. Sans confiance entre rois qui s'allient, il n'est pas d'entreprise qui se puisse mener à bien. L'an passé, j'ai ouvert mes portes aux vassaux de Monseigneur de Navarre. J'ai équipé des troupes aux ordres du duc de Lancastre qui ont appuyé les siennes. Nous étions très avancés dans la préparation d'un traité à passer entre nous. Nous devions convenir d'une alliance perpétuelle et nous engager à ne jamais faire paix, trêve ni accord l'un sans l'autre. Et aussitôt Monseigneur de Navarre débarqué en Cotentin, il accepte de traiter avec le roi Jean, lui jure bon amour et lui rend hommage. » S'il est en jour là présent, si son beau-père l'a pris au ray par coup de traîtrise, la faute n'est pas mienne. Et avant que de lui porter secours, j'aimerais savoir si mes parents d'Evreux ne viennent à moi que dans la détresse pour se tourner vers d'autres aussitôt que je les en ai tirés. » Néanmoins, il prit ses dispositions, appela le duc de Lancastre et fit commencer les apprêts d'une nouvelle expédition en même temps qu'il adressait des instructions au prince de Galles à Bordeaux. Et comme il avait appris par les envoyés navarrais que Jean II le mettait en cause dans les accusations portées contre son gendre, il adressa des lettres au Saint-Père, à l'Empereur et à divers princes chrétiens, où il niait toute connivence avec Charles de Navarre. Mais où, d'autre part, il blâmait fort Jean II de son manque de foi et de ses agissements que, pour l'honneur de la chevalerie, il eût aimé ne jamais voir chez un roi. Sa lettre au pape avait demandé moins de temps que celle du roi Jean, et elle était autrement troussée, veuillez m'en croire. « Nous ne nous aimons guère, le roi Édouard et moi. Il me juge trop favorable toujours aux intérêts de la France, et moi, je le tiens pour trop peu respectueux de la primauté de l'Église. Chaque fois que nous nous sommes vus, nous nous sommes heurtés. Il voudrait avoir un pape anglais, ou préférablement, pas de pape du tout. Mais je reconnais qu'il est pour sa nation un prince excellent, habile, prudent quand il le doit, audacieux quand il le peut. L'Angleterre lui doit gros. » Et puis, bien qu'il ne compte que 44 ans, il jouit du respect qui entoure un vieux roi, quand il a été un bon roi. L'âge des souverains ne se mesure pas à la date de leur naissance, mais à la durée de leur règne. À cet égard, le roi Édouard fait figure d'ancien parmi tous les princes d'Occident. Le pape Innocent n'est suprême pontife que depuis 4 ans. L'empereur Charles, élu il y a 10 ans, n'est couronné que depuis 2. Jean de Valois a tout juste célébré, en captivité, triste célébration, le 6e anniversaire de son sacre. Édouard III, lui, occupe son trône depuis 29 ans, bientôt 30. C'est un homme de belle stature et de grande prestance, assez corpulent. Il a de longs cheveux blonds, une barbe soyeuse et soignée, des yeux bleus un peu gros, un vrai capétien. Il ressemble fort à Philippe le Bel, son grand-père, dont il a plus d'une qualité. Dommage que le sang de nos rois ait donné un si bon produit en Angleterre et un si piètre en France. Avec l'âge, il semble de plus en plus porté au silence, comme son grand-père. Que voulez-vous? Il y a 30 ans qu'il voit des hommes s'incliner devant lui. Il sait à leur démarche, à leur regard, à leur ton, ce qu'ils espèrent de lui, ce qu'ils vont en requérir, quelles ambitions les animent et ce qu'ils valent pour l'État. Il est bref en ses ordres, comme il dit... Moins on prononce de paroles, moins elles sont répétées et moins elles sont faussées. Il se séparait aux yeux de l'Europe d'une grande renommée. La bataille de l'Écluse, le siège de Calais, la victoire de Crécy. Il est le premier depuis plus d'un siècle à avoir battu la France, ou plutôt son rival français, puisqu'il n'a entrepris cette guerre, dit-il, que pour affirmer ses droits à la couronne de Saint-Louis. Mais aussi pour mettre la main sur des provinces prospères. Il ne se passe guère d'années qu'il ne débarque des troupes sur le continent, tantôt en Boulonnais, tantôt en Bretagne, ou bien qu'il n'ordonne, comme ces deux derniers étés, une chevauchée à partir de son duché de Guyenne. Autrefois, il prenait lui-même la tête de ses armées, et il s'y est acquis une belle réputation de guerrier. À présent, il n'accompagne plus ses troupes. Il les fait commander par de bons capitaines qui se sont formés campagne après campagne. Mais je pense qu'il doit surtout ses succès à ce qu'il entretient une armée permanente composée pour le plus gros d'hommes de pied, et qui, toujours disponible, ne lui coûte pas finalement plus cher que ces hostes pesants que l'on convoque à grands frais, que l'on dissout, qu'il faut rappeler, qui ne s'assemblent jamais à temps, qui sont équipés à la disparate et dont les parties ne savent point s'endenter pour manœuvrer en bataille. C'est fort beau de dire « la patrie est en péril, le roi nous appelle, chacun doit y courir ». Avec quoi ? Avec des bâtons ? Le temps vient où chaque roi prendra modèle sur celui d'Angleterre et fera faire la guerre par gens de métier, bien assoldés, qui vont où on leur commande sans muser ni discuter. Voyez-vous, Archambault, il n'est point nécessaire à un royaume d'être très étendu ni très nombreux pour devenir puissant. Il faut seulement qu'il ait un peuple capable de fierté et d'effort et qu'il soit assez longtemps conduit par un chef avisé qui sache lui proposer de grandes ambitions. D'un pays qui comptait à peine 6 millions d'âmes, Galles comprises, avant la Grande Peste, et 4 millions seulement après le fléau, Édouard III a fait une nation prospère et redoutée, qui parle d'égal à égal avec la France et avec l'Empire. Le commerce des laines, le trafic des mers, la possession de l'Irlande, une bonne exploitation de l'abondante Aquitaine, les pouvoirs royaux partout exercés et partout obéis, une armée toujours prête et toujours occupée, c'est avec cela que l'Angleterre est si forte. Et qu'elle est riche. Le roi lui-même possède des biens immenses. On dit qu'il ne saurait compter sa fortune, mais moi je sais bien qu'il la compte, sinon il ne l'aurait pas. Il l'a commencé il y a 30 ans en trouvant pour héritage un trésor vide et des dettes dans toute l'Europe. Aujourd'hui, c'est à lui qu'on vient emprunter. Il a rebâti Windsor, il a embelli Westminster. Oui, Westmoutier, si vous voulez. À force d'aller là-bas, j'ai fini par prononcer à l'anglaise, car, chose curieuse à remarquer, à mesure qu'ils s'emploient à conquérir la France, les Anglais, même à la cour, parlent de plus en plus leur langue saxonne et de moins en moins la française. En chacune de ses résidences, le roi Édouard entasse des merveilles. Il achète beaucoup aux marchands lombards et aux navigateurs chypriotes, non seulement des épices d'Orient, mais aussi toutes sortes d'objets ouvragés qui fournissent des modèles à ses industries. À propos d'épices, il faudra que je vous entretienne du poivre, mon neveu. C'est fort bon placement. Le poivre ne s'altère pas, sa valeur marchande n'a cessé de croître ces dernières années, et tout permet de penser qu'elle continuera. J'en ai pour 10 000 florins dans un entrepôt de Montpellier. J'ai pris ce poivre en remboursement d'une moitié de la dette d'un marchand de là-bas qui se nomme Pierre de Rambert, et qui ne pouvait solder ses approvisionneurs à Chypre. Comme je suis chanoine de Nicosie, Sans y être allé, hélas, car cette île a grande réputation de beauté, j'ai ainsi pu arranger son affaire. Mais revenons à notre sire Édouard. Table de roi chez lui n'est pas un vain mot, et qui s'y assoit pour la première fois a le souffle retenu par la profusion d'or qui s'y étale. Un cerf d'or, presque aussi gros qu'un vrai, en décore le centre. À nappe, aiguière, plat, cuillère, couteau, salière, tout est en or. Les huissiers de cuisine portent à chaque service de quoi battre monnaie pour tout un comté. « Si d'aventure nous sommes dans le besoin, nous pourrons vendre tout cela, » dit-il. Mais dans les moments de gêne, quel trésor n'en connaît pas, Édouard est toujours assuré de trouver du crédit, parce qu'on le sait posséder ses richesses. Lui-même ne paraît devant ses sujets que superbement attourné, couvert de fourrures précieuses et de vêtements brodés, étincelant de joyaux et chaussé d'éperons d'or. Dans cet étalage de splendeur, Dieu n'est pas oublié. La seule chapelle de Westminster est desservie par 14 vicaires, à quoi s'ajoutent les clercs, choristes et tous les servants de sacristie. Pour faire pièce au pape, qu'il dit être sous la main des Français, il multiplie les emplois d'église et ne les veut voir conférés qu'à des Anglais, sans partage des bénéfices avec le Saint-Siège, ce sur quoi nous nous sommes toujours heurtés. Après Dieu servi, la famille. Édouard III a 10 enfants vivants. L'aîné, prince de Galles et duc d'Aquitaine, est ce que vous savez. Il a 26 ans. Le plus jeune, le comte de Buckingham, vient à peine de quitter le sein de sa nourrice. À tous ses fils, le roi Édouard constitue des maisons imposantes. À ses filles, il cherche de hauts établissements qui peuvent servir ses desseins. Je gage qu'il se serait fort ennuyé à vivre, le roi Édouard, s'il n'avait pas été désigné par la Providence pour ce qu'il était le plus apte à faire, gouverner. Oui, il aurait eu peu d'intérêt à durer, à vieillir, à regarder la mort venir s'il n'avait pas eu à arbitrer les passions des autres et à leur désigner des buts qui les aident à s'oublier. Car les hommes ne trouvent d'honneur et de prix à vivre que s'ils vouent leurs actes et leurs pensées à quelque grande entreprise avec laquelle ils puissent se confondre. C'est cela qu'il a inspiré quand il a créé à Calais son ordre de la Jarretière, un ordre qui prospère et dont ce pauvre Jean II, avec son étoile, n'a produit qu'une pompeuse d'abord et puis piteuse copie. Et c'est encore à cette volonté de grandeur que le roi Édouard répond quand il poursuit le projet, non avoué mais visible, d'une Europe anglaise. Non pas qu'il songe à placer l'Occident directement sous sa main, ni qu'il veuille conquérir tous les royaumes et les mettre en servage. Non, il pense plutôt à un libre groupement de rois ou de gouvernements dans lequel il aurait préséance et commandement, et avec lequel non seulement il ferait régner la paix à l'intérieur de cette entente, mais encore n'aurait plus rien à redouter du côté de l'Empire, si même il ne l'englobait. Ni plus rien à devoir au Saint-Siège. Je le soupçonne de nourrir secrètement cette intention-là. Il a déjà réussi avec les Flandres qu'il a détachées de la France. Il intervient dans les affaires d'Espagne. Il pousse des antennes en Méditerranée. Ah, s'il avait la France, vous imaginez, que ne ferait-il pas? Que ne pourrait-il faire à partir d'elle? Son idée d'ailleurs n'est pas toute neuve. Le roi Philippe le Bel, son grand-père, avait eu déjà un projet de paix perpétuelle pour unir l'Europe. Édouard se plaît à parler français avec les Français, anglais avec les Anglais. Il peut s'adresser aux Flamands dans leur langue, ce dont ils sont flattés et qui lui a valu maint succès auprès d'eux. Avec les autres, il parle latin. Alors, me direz-vous, un roi si doué, si capable et que la fortune accompagne, pourquoi ne pas s'accorder à lui et favoriser ses prétentions sur la France? Pourquoi tant faire afin de maintenir au trône ce niais arrogant, né sous de mauvaises étoiles dont la Providence nous a gratifiés? Sans doute pour éprouver ce malheureux royaume. Eh, mon neveu, c'est que la belle entente a formé entre les royaumes du couchant, nous la voulons bien, mais nous la voulons française, je veux dire de direction et de prééminence française. L'Angleterre, nous en avons conviction, s'éloignerait bien vite si elle était trop puissante des lois de l'Église. La France est le royaume de Dieu désigné, et le roi Jean ne sera pas éternel. Mais vous comprenez aussi, Archambault, pourquoi le roi Édouard soutient avec tant de constance ce Charles le Mauvais qu'il a beaucoup trompé. C'est que la petite Navarre et le gros comté d'Évreux sont pièces non seulement dans son affaire avec la France, mais dans son jeu d'assemblage de royaumes qui lui chemine en cervelle. Il faut bien que les rois aussi aient un peu à rêver. Bientôt, après l'ambassade de nos bons hommes Morbecque et Brévent, ce fut Monseigneur Philippe d'Évreux-Navarre, comte de Longueville, qui vint lui-même en Angleterre. Blond, de belle taille et de nature fière, Philippe de Navarre est aussi loyal que son frère est fourbe. Ce qui fait que, par loyauté à ce frère, il en épouse, mais de cœur convaincu, toutes les fourberies. Il n'a pas le grand talent de parole de son aîné, mais il séduit par la chaleur de l'âme. Il plut fort à la reine Philippa, qui dit qu'il ressemblait tout à fait à son époux au même âge. Ce n'est pas grande merveille, ils sont cousins plusieurs fois. Bonne reine Philippa, elle a été une demoiselle ronde et rose qui promettait de devenir grasse comme souvent les femmes du Hainaut. Elle a tenu promesse. Le roi l'a aimée de bon amour, mais il a eu, l'âge venant, d'autres entraînements du cœur, rares mais violents. Il y eut la comtesse de Salisbury, et à présent ces dames Alice Perrère ou Perrière, une suivante de la reine. Pour calmer son dépit, Philippa mange, et elle devient de plus en plus grosse. La reine Isabelle? Mais si, elle vit toujours. Du moins, elle vivait encore le mois dernier. À Castle Rising, un grand et triste château où son fils l'a enfermé, après qu'il eut fait exécuter son amant, Lord Mortimer, il y a 28 ans. Libre, elle lui aurait causé trop de soucis. La Louve de France. Il vient la visiter une fois l'an au temps de Noël. C'est d'elle qu'il tient ses droits sur la France. Mais c'est elle aussi qui a causé la crise dynastique en dénonçant l'adultère de Marguerite de Bourgogne et fournit bonne raison pour écarter de la succession la descendance de Louis Hutin. Il y a de la dérision, vous l'avouerez, à voir 40 ans après le petit-fils de Marguerite de Bourgogne et le fils d'Isabelle faire alliance. Il suffit de vivre pour avoir tout vu. Et voilà Édouard et Philippe de Navarre, à Windsor, remettant en chantier ce traité interrompu et dont les premières assises avaient été posées lors des entretiens d'Avignon. Toujours traité secret. Dans les rédactions préparatoires, les noms des princes contractants ne devaient pas figurer en clair. Le roi d'Angleterre y est appelé l'aîné et le roi de Navarre le cadet. Comme si cela pouvait suffire à les masquer et comme si la teneur des notes ne les désignait pas à l'évidence. Ce sont là précautions de chancellerie qui n'abusent guère ceux dont on se défie. Quand on veut qu'un secret soit gardé, eh bien, il ne faut pas l'écrire. Voilà tout. Le cadet reconnaissait l'aîné pour le roi de France légitime. Toujours la même chose. C'est le début et l'essentiel. C'est la clé de voûte de l'accord. L'aîné reconnaît au cadet le duché de Normandie, les comtés de Champagne et de Brie, la vicomté de Chartres et tout le Languedoc avec Toulouse, Béziers, Montpellier. Il paraît qu'Édouard n'a pas cédé sur l'Angoumois. Trop près de la Guyenne, ce doit être pour cela. Il ne laisserait pas Navarre, si ce traité doit avoir effet, qu'à Dieu ne plaise, prendre pied entre l'Aquitaine et le Poitou. En revanche, il aurait accordé la Bigorre, ce que Phébus, si cela lui est venu aux oreilles, ne doit guère goûter. Comme vous voyez, tout cela additionné, cela fait un gros morceau de France, un très gros morceau. Et l'on peut se surprendre qu'un homme qui prétend à y régner en abandonne tout à un seul vassal. Mais d'une part, cette sorte de vice-royauté qu'il confère à Navarre répond bien à cette idée d'empire nouveau qu'il caresse, et d'autre part, plus il accroît les possessions du prince qu'il reconnaît pour roi, plus il élargit l'assise territoriale de sa légitimité. Au lieu d'avoir à gagner les ralliements pièce à pièce, il peut soutenir qu'il est reconnu d'un coup par toutes ses provinces. Pour le reste, partage des frais de la guerre, engagement à ne point conclure de trêves séparées, ce sont clauses habituelles et reprises du projet précédent. Mais l'alliance est énoncée « alliance perpétuelle ». Je me suis laissé dire qu'il y eut une plaisante passe entre Édouard et Philippe de Navarre, parce que celui-ci demandait que fût inscrit au traité le versement des 100 000 écus jamais payés qui figuraient sur le contrat de mariage entre Charles de Navarre et Jeanne de Valois. Le roi Édouard s'étonna. « Pourquoi aurais-je à payer les dettes du roi Jean ?»« Si fait, vous le remplacez au trône, vous le remplacez aussi dans ses obligations. » Le jeune Philippe ne manquait pas d'aplomb. Il faut avoir son âge pour oser de ces choses. Cela fit rire Édouard III, qui ne rit guère à son ordinaire. « Soit, mais après que j'aurai été sacré à Reims, pas avant le sacre. » Et Philippe de Navarre repartit pour la Normandie. Le temps de mettre sur Vélin ce dont on était convenu, d'en discuter les termes article par article, de passer les notes d'un côté à l'autre de la Manche, l'aîné, le cadet, et puis aussi les soucis de la guerre, tout cela fit que le traité, toujours secret, toujours connu au moins de ceux qui avaient intérêt à en connaître, ne devait finalement être signé qu'au début de septembre, au château de Clarendon, il y a seulement 3 mois, fort peu avant la bataille de Poitiers. Signé par qui ? Par Philippe de Navarre, qui fit à ce dessein un second voyage en Angleterre. Vous comprenez à présent, Archambault, pourquoi le dauphin, qui s'était si fort opposé, vous l'avez vu, à l'arrestation du roi de Navarre, le maintient si obstinément en prison, alors que, commandant Séan au royaume, il aurait tout loisir de le libérer, comme demain de part on l'empresse. Aussi longtemps que le traité n'est signé que par Philippe de Navarre, on peut le tenir pour nul. Dès lors qu'il serait ratifié par Charles, ce serait une autre affaire. À l'heure où nous sommes, le roi de Navarre, parce que le fils du roi de France le tient prisonnier en Picardie, ne sait pas encore, il est sans doute le seul, qu'il a reconnu le roi d'Angleterre pour roi de France, mais d'une reconnaissance sans vigueur puisqu'il ne peut la signer. Voilà qui ajoute un beau nœud d'embrouille où une chatte ne reconnaîtrait pas ses petits, que nous allons tenter de défaire à Metz. Je gage que dans 40 ans d'ici, personne n'y comprendra plus rien, sauf vous peut-être, ou votre fils, parce que vous lui aurez raconté.